Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Des fois on est jeune et on lit des livres et on se dit « Ah c'est beau la justice, c'est romantique, c'est une valeur supérieure » mais t'es pas vraiment confronté à des situations où « Ok, là en gros, c'est pas super ce qui se passe, si t'agis de telle manière, ça va aller à l'inverse de tes intérêts ». Mais c'est peut-être ce qui est plus juste à faire.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Amel.
Salam alaikum wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, ça va bien et toi-même?
Très bien. Écoute, je suis très honoré de t'accueillir sur mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis honoré.
Et moi, je suis honorée de pouvoir parler avec toi ce matin. Merci beaucoup de me recevoir.
Je t'en prie. Amel, tu es avocate de formation. Je t'ai formée en France et en Suisse. Tu as également trois nationalités. Tu es suissesse, algérienne et canadienne, s'il me semble. C'est bien ça?
Exactement.
Pourrais-tu te présenter rapidement, Amel, et nous dire un peu qui tu es?
Avec plaisir. Donc, comme tu l'as très bien dit, donc, je suis avocate de formation. J'ai fait mes études à l'Université de Genève, à l'Université Paris de Panthéon à Assas. Et j'ai passé dernièrement l'équivalent du barreau en France, des barreaux suisses en France. Donc, c'est très important pour moi d'avoir différentes perspectives dans la vie. J'ai, comme tu l'as dit, trois nationalités, ce qui m'offre finalement trois visions du monde que j'essaye de convoquer dans chaque prise de décision. Parce que chacun des contextes a une plus-value et a finalement été important dans mon parcours et dans ma formation personnelle et professionnelle.
Du coup, tu as grandi où? Tu es né
Alors,
où? Tu as grandi où?
J'ai grandi à Genève, de parents algériens, et ma mère est algéro-suissesse, et mon père est algéro-canadien, ce qui fait cette magnifique addition de trois nationalités en bout de course, mon frère et moi.
Très bien, très bien. C'est super intéressant. Donc, tu as fait des études de droit. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers le droit?
Alors, j'ai commencé l'université sans franchement avoir vraiment conscience de là où j'allais. Je savais ce que j'aimais. J'aimais bien la lecture et j'aimais bien un célèbre avocat qui s'appelle Jacques Vergès, maître Jacques Vergès. Et notamment, il y a un livre qui m'a passionnée toute ma vie, c'est « Omar m'a tué ». Avec cette faute de grammaire qui veut que « tuer » soit écrit « er ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué rien que dans mon parcours scolaire, parce que mon père se prénomme Omar, et il sortait souvent cette fameuse référence pour nous dire « Omar m'a tué » s'écrit « e » accent aigu ». Et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentrée dans cette histoire qui est d'une tristesse infinie, où j'ai connu du coup l'histoire d'Omar Haddad, ce jardinier marocain qui a été condamné pour le meurtre d'une propriétaire d'une maison et qui avait été défendu par Jacques Vergès. C'est un livre qui m'a énormément marqué et je me rappelle que je le lisais beaucoup au moment du baccalauréat, de la maturité comme on l'appelle en Suisse. Et à ce moment-là, j'ai commencé des études de lettres, à l'instar de Jacques Vergès, l'avocat qui défendait Omar Haddad. Et j'ai commencé des études de lettres en arabe et en histoire. Ça m'a passionnée. Et à l'issue de la première année, qui s'était très bien déroulée, j'ai eu l'opportunité de partir en territoire occupé palestinien avec la faculté d'arabe, enfin, sur recommandation de la faculté d'arabe, pour pratiquer la langue arabe littéraire. Donc je suis partie en territoire occupé palestinien, c'était en 2011, sauf erreur. Et l'expérience que j'y ai vécue était une expérience beaucoup plus riche que celle uniquement de l'apprentissage de la langue arabe, puisque j'ai vraiment été confrontée à des injustices qui ont énormément résonné en moi. Et je pense que c'est également mon héritage algérien qui a parlé à ce moment-là. J'ai ressenti beaucoup de fraternité et le vécu des Palestiniens faisait beaucoup écho au vécu de ce qui m'avait été transmis de mes ascendants en Algérie avec la colonisation française. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'être un peu plus active dans le cadre de mes études Et j'ai décidé de choisir une faculté qui me donnait un petit peu plus de prise sur le réel, qui m'aurait donné finalement un peu plus de pouvoir, parce que je pense que c'est les mots qui sont importants. Et j'ai choisi donc la faculté de droit. J'y suis rentrée peut-être un petit peu au début, sans trop savoir où je mettais les pieds. Et finalement, je pense que c'était tout à fait cohérent et la meilleure des décisions que j'ai prises que de commencer les études de droit que j'ai aimées à la fin.
Ouais.
Pourquoi j'ai aimé les études de droit à la fin? Parce que bon, bien évidemment, déjà, c'est des études qui sont extrêmement coûteuses. C'est des études qui prennent énormément de temps. Je travaillais à côté, comme la majorité des étudiants hein, par ailleurs, et je travaillais à côté de mes études, donc avec un taux d'activité assez élevé, puisque j'étais à 50% en emploi. Donc c'était très difficile de concilier finalement et les études, la concentration pour les études et finalement une vie de jeune adulte. Mais alhamdoulilah, on l'a fait comme beaucoup. Et ce qui m'a donné accès finalement au Graal des étudiants en droit, ce qui est le stage d'avocate. Et
Oui.
ce stage d'avocate, mon ami, c'est quelque chose. C'est quelque chose que je trouve intéressant de préciser ici, parce que pour des profils comme le mien, comme je pense beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes d'origine, avec des religions minoritaires, avec finalement une histoire issue de l'immigration postcoloniale, avec tout ce que ça implique, donc fatalement une absence de réseau, une absence de soutien, une absence de vision en fait. On est un petit peu lâché dans un milieu où on est un peu tout seul. Et moi, je me suis retrouvée dans un stage d'avocate qui était extrêmement éloigné de qui j'étais. Et ça a été très difficile d'en sortir.
C'est combien d'années d'études en Suisse pour être avocat?
Alors, c'est 3 ans pour le bachelor, 2 ans pour le master. Et
Ok.
ensuite, on a une école d'avocat qui dure 6 mois, puis un stage obligatoire d'un an et demi. Mais
D'accord, ça
disons
ressemble
que
à. C'est pareil en France quasiment.
c'est assez similaire au parcours français.
D'accord. Et le stage, tu parles du stage après les 6 mois.
Exactement. Après les 6 mois d'école d'avocat, la différence peut-être avec les élèves avocats français, c'est que nous, nous prêtons le serment d'avocat en début de stage, et ce qui veut également dire beaucoup sur son contenu. Donc, c'est vraiment une mini-formation pour un jeune avocat. On n'a bien évidemment pas la responsabilité d'un avocat titularisé du brevet, mais on a une charge de travail qui est très conséquente et beaucoup de poids sur les épaules. Et moi, je suis arrivée du coup dans un cabinet qui, en termes de dossier, était intéressant parce qu'il faisait un peu de tout. Et ça, c'est vraiment une particularité suisse, dans le sens où on a des cabinets généralistes qui font autant du droit de la construction que du droit des étrangers, que du droit pénal, que du droit de la famille. Et ça, je trouve ça très riche, alors qu'en France, on est beaucoup plus spécialisé. On va faire du pénal, on va faire de l'admin, on va faire donc du fiscal. Et du coup, c'était riche pour la formation que j'ai pu acquérir par moi-même. Ça, je le souligne, parce que ce n'est pas malheureusement mes maîtres de stage qui ont porté cette formation. Mais je me suis retrouvée finalement dans un milieu où j'ai eu des choix, j'ai eu des décisions à prendre et qui ont été difficilement prises. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve finalement dans des conflits même éthiques. Ce qui veut dire que on a face à soi des personnes qui ont un mode de vie très très éloigné du nôtre, avec des valeurs très éloignées des nôtres également, et peut-être pas trop de sens dans tout ça. Ce qui fait que quand on perd du sens dans le milieu professionnel, ça je l'ai appris aussi plus tard, quand il n'y a plus de sens, il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. On se perd au milieu de l'argent, on se perd au milieu de certains travers, que ce soit l'alcool, on se perd au milieu de ce besoin de toujours accumuler plus, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Ce n'est qu'un jeu au final, et les gens qui composent ce cabinet ne sont que des pions. Donc ça, moi, ça m'a déplu.
J'ai deux questions par rapport à ça,
Oui,
avant de continuer.
je t'en prie.
La première, c'est... Est-ce que ce que tu décris là, c'est quelque chose qui est généralisé chez tous les cabinets ou la plupart des cabinets? Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux me donner un exemple de problème éthique, de choses qui étaient invivable pour toi.
Oui, bien sûr. Alors, si moi, j'ai pas de statistiques hein, sur le taux de souffrance dans les cabinets d'avocats. En plus, y a des questions qui se posent en Suisse, il y a des questions qui se posent en France. Mais récemment, j'ai ouvert une page d'aide pour les avocats stagiaires et étudiants où j'apportais mon soutien à des personnes qui, à un moment donné, ont besoin de parler, ont besoin de conseils ou même des conseils juridiques. Mais cette page, elle a été investie en masse, mais vraiment en masse, par des avocats stagiaires qui, du coup, m'ont contacté pour me faire état de leur souffrance au milieu du travail. Donc, je pense que c'est assez récurrent pour friser le systémique. Après, j'ai encore une fois pas de statistiques, mais disons que c'est une problématique qui est bien réelle. Et par exemple, on a dans des cabinets, beaucoup de cabinets d'avocats, on a des résultats qui nous sont demandés, qui sont obligatoirement demandés, mais c'est des objectifs qui sont irréalistes. Par exemple, on peut pas écrire une écriture pour un client en 2 heures alors qu'on vient de nous donner les pièces, les documents. Donc ça crée énormément de pression. On va mettre beaucoup de compétition, on va mettre les collaborateurs oui, en compétition, il va y avoir aussi beaucoup d'humiliation publique, il y a des règles qui sont opaques, qui sont un peu ambivalentes, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, de domination dans les cabinets d'avocats, beaucoup d'agressivité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui crée beaucoup de malheur chez des jeunes personnes qui sortent des études et qui n'ont juste pas les outils pour affronter ce type d'agression. Et en fait, tout ça, tout ce que je viens un petit peu de donner comme exemple, ça crée une sorte d'aveuglement éthique. Dans le sens où on est comme une sorte de... Moi, je me voyais comme un hamster en cage et qui n'arrêtait pas de tourner dans sa petite roue et qui s'arrêtait plus, en fait. Parce qu'on est absorbé dans tellement de pression, par tellement, en fait, de figures autoritaires qu'on sait plus très bien comment s'en sortir. Et finalement, on se laisse aller et on fait un peu des compromis. On fait des compromis avec sa conscience. On fait des compromis avec soi-même. Et finalement, c'est justement cette nécessité d'éviter les compromis, de ne pas accepter l'inacceptable que j'essaye de transmettre aux jeunes avocats, de dire qu'on a le droit de poser ses limites, qu'aujourd'hui, en tout cas, l'ordre fait en sorte de mettre des personnes de référence, d'avoir des gens qui nous tendent la main, parce que moi, il y a des gens qui m'ont tendu la main dans mes difficultés, et ça, je l'oublie pas, et je les remercie, et qu'on n'est pas seul au milieu de, finalement, ces cabinets d'avocats qui peuvent être vraiment destructeurs. Donc, moi, j'ai aussi eu, par la suite, la chance d'avoir une position qui était de chef d'études, pas du tout dans ce cabinet hein, que j'ai quitté après 1 an. Mais plus tard, j'ai eu une position, moi également, de pouvoir et je me suis mise comme ligne de conduite de plus jamais répéter ce qui m'avait fait souffrir en tant que stagiaire et de m'arrêter là, en fait. Dans le sens où, quand on a une position de leadership, quand on a une position d'autorité, on a une responsabilité et il y a une éthique du pouvoir à avoir qui, très souvent, fait défaut. Dans les figures de manager, en tout cas que moi j'ai rencontré dans le milieu professionnel, que ce soit en Suisse ou en France. Pas si c'est trop conceptuel ou si
C'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai que bon, ceux qui ne travaillent pas dans le milieu peut-être ont peut-être plus de mal à comprendre exactement quels sont les problèmes au
ouais.
quotidien.
Je peux donner des exemples en fait, peut-être plus précis de ce que j'ai vécu.
Peut-être, oui, peut-être un ou deux exemples.
Oui, alors peut-être pour expliquer aussi ce qui a été ma vie, en tout cas, de stagiaire dans un cabinet d'avocate. C'est-à-dire qu'on a énormément de pressions, bien évidemment des pressions qui sont inhérentes au métier d'avocat. Donc, on a des délais, on a des clients, on a des devoirs. Mais on a aussi, par exemple, des supérieurs hiérarchiques qui peuvent être versés dans l'alcool, qui peuvent avoir des attitudes très... détestables, comme par exemple des propos explicitement sexuels ou des choses voilà, que moi j'ai vraiment eu à subir. Et il y a des pratiques illicites aussi dans des cabinets d'avocats. Donc ça, c'est quelque chose qu'au stagiaire et moi-même avons dénoncé à l'autorité de surveillance et pour lesquels mon maître de stage a été condamné à Genève Première instance, c'est auprès de la Cour de justice. On attend la confirmation du tribunal fédéral, qui est la plus haute juridiction suisse. Mais pour dire que c'est du sérieux, quoi. Il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui se passent sous les yeux de personnes qui n'ont pas les armes pour les appréhender, qui n'ont pas les réseaux, qui, bah, par exemple, si je prends mon exemple à moi, je vais pas aller solliciter l'aide de mes parents. Au contraire, moi, j'ai ce profil où, comme beaucoup de personnes comme moi, on est plutôt dans une démarche de protéger nos proches. C'est pas nos proches qui nous protègent, parce que nous, on a eu accès à l'éducation ici. Nous, on comprend mieux les codes qu'eux, finalement. Donc, ça nous isole également, hein. Mais c'est le lot de pas mal. Mais donc, c'était un petit peu ça qui a été vécu.
Ouais. Puis il y a la pression au travail, enfin, dans le cabinet, et j'imagine qu'il y a aussi il y a la pression externe aussi de se dire que les commentaires qui reviennent souvent, c'est tout le monde passe par là, surtout quand on est junior. On a toujours une surcharge de travail au début, c'est comme ça, c'est le métier qui rentre. Puis à côté, si on veut quitter, on veut faire quelque chose, et ben on se dit que voilà, on a quand même fait 7 années d'études, et c'est un peu la désillusion après 7 années. Et il y en a beaucoup qui continuent juste parce qu'ils ont fait cette année d'études, qui veulent quand même rentabiliser ces années d'études. Si on quitte le métier d'avocat, on quitte le barreau, on n'est plus vraiment avocat, et c'est vécu comme une défaite.
Alors, je pense qu'effectivement, t'as pointé du doigt un souci, c'est cette pression aussi qu'on se met à soi-même. Parce que pourquoi ça devrait être vécu comme une défaite, dans le sens où il y a beaucoup d'autres corps de métier qui nécessitent des compétences juridiques en dehors du barreau. Moi, je suis pas du tout du genre à décourager les gens de s'inscrire au barreau. Je pense que cette profession est très belle et qu'elle peut se vivre en indépendance, en conscience, et avec une certaine éthique, mais pas partout, pas dans tous les cabinets. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont énormément souffert d'avoir choisi cette voie et qui finalement se réorientent en bout de course. Donc peut-être que ça, c'est aussi un côté suisse que j'aime bien, que j'ai moins retrouvé en France. Et peut-être que ça explique aussi, enfin, eu égard à nos situations, peut-être nos privilèges socio-économiques qui font que on a moins cette pression de poursuivre à tout prix. Je connais beaucoup de personnes qui se sont réorientées. Encore il y a quelques jours, j'écoutais un podcast d'une avocate qui finalement aujourd'hui est devenue chef cuisinier. Je trouve ça très drôle. Et c'est pas du tout, il faut pas la vivre comme une prison, cette profession, parce que purée, c'est long quand même, hein. C'est toute une vie.
C'est
Mais
sûr.
je pense qu'il faut, en fait, faut trouver son l'endroit où on est aligné, où on est bien. Et je pense que ces questions d'alignement, elles sont difficilement trouvables parce que justement, on est dans des contextes, on est au milieu de requins, en fait. Moi, en tout cas, je me suis retrouvée à bien des moments au milieu de requins. Et tu peux pas être un dauphin au milieu de requins. C'est pas possible, en fait. Ça marche pas. Donc, tu dois t'adapter à ton écosystème. Mais t'as pas envie d'être un requin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais souvent, c'est que tu quittes. Mais en quittant, il faut garder à l'esprit que tu peux faire mieux. Donc moi, ce discours, bien évidemment que je l'ai entendu, mais c'est normal, quand tu es un avocat stagiaire, tu as de la main-d'œuvre bon marché, tu es là pour faire des dossiers, faire de l'argent et tu te tais, quoi. Mais ça, moi, en fait, ce système d'exploitation, je le laisse à mes ancêtres, ils ont déjà assez donné. Donc non, tout travail mérite salaire et il n'y a pas de raison que je me fasse exploiter et on capitalise sur mes compétences alors, et que j'ai aucun retour sur cet investissement que je donne. Donc, à un moment donné, quand on s'est sorti de tout ça, quand on a passé le stage avocat, qu'on a eu notre brevet d'avocat, qu'on a un petit peu gagné en confiance, en assurance, on va nous aussi, à notre tour, devenir des avocats, devenir des maîtres de stage, devenir des chefs de cabinet, devenir finalement des entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir on peut être dans l'action et on peut changer les choses. On va pas faire aux autres ce qui nous a fait souffrir. En tout cas, moi, ce sera toujours ma limite. Et c'est vraiment l'idée de briser des cercles vicieux et mettre en branle des cercles vertueux pour petit à petit créer un climat de travail qui soit plus sain et plus éthique. Et c'est possible, ça, j'en suis convaincue parce que j'ai autour de moi des personnes qui sont vraiment qui ont été brisées par ce métier et qui pourtant ne feront jamais aux autres ce qu'elles ont vécu et je trouve que c'est honorable.
Tu disais que ce qui t'a poussé à t'orienter vers le métier du droit, c'est ton voyage en Palestine, Palestine occupée. Est-ce que tu es toujours lié à la Palestine aujourd'hui?
Bien évidemment qu'en termes de... Ça reste dans mon cœur, parce que c'est une injustice, et c'est une injustice d'une tristesse infinie. Aujourd'hui, j'ai pas d'activité militante en lien avec, la Palestine. Peut-être aussi que c'est oui, les années ont passé, et peut-être par défaitisme, c'est triste à dire. Mais disons que la cause palestinienne m'est chère et me restera toujours chère. Et ça, c'est aussi, je pense, inhérent à ma nationalité algérienne. Mais je suis plus retournée en, je suis même pas retournée au Moyen-Orient. Donc, mais c'est quelque chose que j'exclus absolument pas.
Ouais. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se rendent vers les métiers du droit, qui trouvent leur vocation dans le droit, poussées par ce sentiment de justice, de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir défendre des personnes les plus faibles, les plus opprimées, etc. Et qui, au final, se rendent compte, quand ils arrivent dans le métier d'avocat, qu'en fait, ils n'ont pas un aussi grand pouvoir que ça, que ce n'est pas aussi simple de faire changer les choses. Je ne sais pas si c'est un sentiment que tu as pu avoir.
Si, oui, c'est justement ce que je te disais par rapport au défaitisme, c'est que en fait, moi, j'ai vraiment changé de perspective. Quand on a 20 ans, on a envie de changer le monde. Quand on en a 30, on a peut-être envie de changer le sien de monde. Et du coup, c'est cette idée de faire le bien à son échelle, en fait, et partir de cercles concentriques et se dire qu'on a peut-être pas on a peut-être pas de prise sur ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres. Mais on a une prise sur ce qui se passe au sein de son cabinet, au sein de sa famille, au sein des choses qui nous entourent. Et c'est dans ces zones-là qu'on peut faire du bien. Quand j'ai voulu mettre en place ces propositions de petites réunions de mentorat avec des élèves, avocats ou avec des étudiants ou avec des justiciables qui sont un petit peu perdus, c'est vraiment dans cette idée de, en fait, on va mettre en branle les cercles vertueux à mon échelle et essayer d'avoir un impact direct sur la vie des gens qui m'entourent et peut-être moins chercher à essayer de tout contrôler parce que je ne suis rien d'autre qu'une mini fourmi pardon et que voilà ça relativise un petit peu je pense que ça aussi c'est le poids des années qui fait qu'on est un petit peu plus réaliste sur nos moyens d'action. Après je pense que le droit ça peut être un instrument assez fantastique et qui permet aussi d'être porteur de cause. J'aimais Jacques Vergès parce que Jacques Vergès, c'était un anticolonialiste et son anticolonialisme, il l'exprimait aussi à travers sa pratique du métier d'avocat. Donc, selon les dossiers qu'on va défendre, selon les stratégies de défense qu'on va employer, selon finalement, les causes qu'on souhaite prioriser, on a un impact aussi dans la société.
Oui. À la suite de ces expériences en tant qu'élève stagiaire, qu'élève avocate, pardon,
Il avait avocat, oui.
tu es devenue avocate. Tu
J'ai passé
as
le... Ouais.
oui, le barreau.
Je le vois d'abord.
Tu as travaillé en Suisse pendant quelques temps.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai travaillé en Suisse et c'est là où, justement, Donc, juste après le barreau, j'ai quand même eu besoin de respirer et je suis partie au Canada, un de nos
Ok.
trois pays.
Ça t'a sorti le passeport, je sais pas de quelle couleur il est, Bordeaux aussi.
Il est vert.
Il est
Il
vert,
est
ouais.
vert. Mais du coup, je suis partie, j'ai choisi celui-ci. Je suis partie à Tokyo d'abord et après, je suis partie à Vancouver, donc, qui est sur la côte ouest
Trop bien.
du continent. Et c'était magnifique. Et ça me permettait aussi de connecter avec d'autres personnes, puisqu'en Europe, on a l'impression d'être. Enfin, on nous fait croire qu'on est le centre du monde, alors que Dieu, que le monde est vaste et que c'est riche d'aller le découvrir. Et à la suite de cette coupure canadienne qui a duré 6 mois, je suis rentrée parce que j'ai une proposition d'un cabinet genevois qui, lui, se spécialise dans la défense des personnes vulnérables. Donc, ça m'a énormément botté, quoi. Enfin, moi, c'était vraiment ce type de cabinet que je souhaitais rejoindre. Et donc, j'y suis restée un peu plus d'un an. Et je l'ai finalement quitté tout simplement parce que j'ai aussi... ce besoin de rendre des comptes. Pour moi, si on a cette étiquette, enfin, il y a une différence entre éthique et étiquette. Et si on a une étiquette humaniste, Cet humanisme, il va se déployer au sein même de l'institution. Sinon, ça ne fait pas sens. Sinon, c'est juste prendre la pose, c'est une posture. Nous, on aide les gens, très bien. Est-ce que tu aides les gens qui sont en ton sein? Et si tu as des critiques, comment est-ce que tu les traites? Comment est-ce que tu te remets en question? Et pour moi, quand il y a des déclarations d'intention de vouloir faire le bien, ben finalement, ça ne se décrète pas, ça se prouve. Et pour moi, ça n'a pas fait ses preuves. Ce qui fait que j'ai quitté ce cabinet il y a à peu près 6 mois. Et c'est à ce moment-là que je suis partie en France. Je suis partie à Paris où j'ai passé du coup mon examen d'équivalence du barreau français. Et c'était extraordinaire parce que du coup, j'ai eu une formation en déontologie. Et j'ai trouvé que c'était finalement ce qui m'a fait adorer cette profession. C'était ce code moral. C'était finalement comprendre derrière le serment de la profession d'avocat ce qu'il y avait derrière, quelle était la philosophie, qui finalement c'était une philosophie qui se fondait avec mes valeurs, enfin. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, ce métier d'avocat, il est aussi perverti par les gens qui le portent, que c'est un magnifique métier, qu'on peut le pratiquer en conscience. Donc, sa conscience, je trouve que ce qu'il y a de plus beau à écouter, c'est le fond de son âme. Et que c'est possible, et que malheureusement, j'ai juste eu ou heureusement, parce que ça m'a permis aussi de confronter mon sentiment de justice. Parce que des fois, on est jeune et on lit des livres et on se dit, ah, c'est beau la justice, c'est romantique, c'est une valeur supérieure, mais t'es pas vraiment confronté à des situations où, ok, là, en gros, c'est pas super ce qui se passe. Si t'agis de telle manière, ça va aller à l'inverse de tes intérêts. Mais c'est peut-être ce qui est plus juste à faire. Et face à ce genre de dilemme, à chaque fois, et ça, alhamdoulillah, je pense avoir pris les bonnes décisions. Et encore une fois, alhamdoulillah, ça s'est vraiment confirmé par la suite parce que j'ai eu des opportunités encore plus belles qui sont ouvertes à moi après ces décisions difficiles, éthiquement difficiles.
Donc les décisions dont tu parles, c'est quitter à chaque fois les cabinets qui ne te plaît pas.
Exactement. Quitter et sans calcul. Sans stratégie derrière, parce que des fois on quitte et on a déjà une porte de sortie, et puis c'est très bien, bien joué. Mais moi je quittais parce que j'étais face à une situation qui nécessitait, à mon sens, de me positionner, et tu quittes sans avoir rien derrière, et ça te met dans une situation de précarité, ça te met dans une situation de vulnérabilité. Mais encore une fois, alhamdoulillah, mon expérience a montré que c'était quand même les bonnes choses à faire, et qu'après chaque épreuve, il y a quand même une belle récompense.
Oui. Tu as vécu beaucoup d'épreuves, je dirais, psychologiques, peut-être. C'était peut-être le plus intense pendant tes premières expériences en tant qu'avocate. Comment est-ce que la religion, l'islam, t'a accompagné pendant ces épreuves? Est-ce qu'elle t'a accompagné? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé?
Alors, pendant ma période de stage, c'est vraiment ce que j'ai appelé, moi, un peu cet aveuglement éthique. Ça veut dire qu'on est tellement pris, c'est comme si on est une toupie qui s'arrête plus. Donc on est pris au milieu de délais, on est pris au milieu de pression, on est pris au milieu de tellement d'ennuis que j'arrivais plus du tout à réfléchir et j'arrivais plus à prendre de recul et à me recentrer. Et finalement, comment est-ce que ça, c'est assez intéressant, comment est-ce que j'ai quitté? Pour les 2 fois où j'ai quitté des cabinets d'avocats qui m'ont déçue, j'ai quitté parce que la première fois c'était un stage d'avocate, donc je franchement subissais des personnes détestables, mais finalement je prenais sur moi et il a fallu qu'on soit dans une réunion de cabinet, donc tous les avocats présents, pour que je sois prise à partie par une des avocates et qu'un de mes confrères prenne ma défense en disant non mais écoutez ce qu'Amel fait en vous tenant tête c'est courageux et puis elle parle finalement en notre nom à nous tous et là une avocate m'a prise en grippe et pour des raisons qui la regardent et a commencé à dire non mais moi ce que tu fais Amel j'appelle pas ça du courage donc le fait de dénoncer des dysfonctionnements elle me dit j'appelle pas ça du courage j'appelle ça un manque d'éducation. Et ça, pour moi, ça a été le moment où, en fait, je ne me suis même pas posé de questions. Physiquement, je me suis levée. Et du coup, devant témoin, j'ai annoncé mon départ. Et ciao les punks, en fait. Vraiment, c'était pour moi un moment de rupture parce que ça m'a rappelé un peu qui j'étais. Mon éducation, ça fait appel à ma famille, ça fait appel à ma religion, ça fait appel à mes valeurs. Et ça m'a reconnecté avec quelque chose que j'avais finalement un peu laissé en coulisses parce que j'avais plus le temps, trop le temps d'y réfléchir et je voulais pas trop y réfléchir parce que je voyais bien que j'étais pas cohérente avec mes valeurs, avec ma religion et avec ma pratique. Donc finalement, cette offense, elle m'a permis de me remettre à ma place. Et ma place, elle n'était pas avec eux. Et c'est comme ça que je suis partie. Et dans mon deuxième cas de figure, où là, j'étais associée, donc là, j'étais dans une position de pouvoir, là, j'ai décidé de quitter parce qu'il y avait également de la souffrance de la part de personnel de ce cabinet qui m'a été rapportée. Et sur laquelle j'avais un devoir aussi en termes d'employeur, de protéger la personnalité des employés, et sur lequel je ne voulais pas fermer les yeux. Mais c'était très difficile parce que j'étais finalement, moi, dans un cabinet où j'avais des super bons dossiers, j'avais une bonne position, c'était à côté de chez moi, enfin, j'étais bien. Et en même temps, il fallait que je prenne une décision parce que je voyais bien que c'était pas très correct ce qui se passait. Et je suis allée déjeuner avec une amie et son mari, qui sont musulmans. Donc, en plus de ça, on a vraiment la possibilité de parler ensemble de choses qui font sens. Et son mari, à la fin du déjeuner, il m'a dit, mais Amel, il faut que n'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. Et cette phrase, elle m'a vraiment marquée de la part de cet homme, parce que ça m'a encore une fois remise un petit peu à ma place et de me dire que des fois, le monde du travail m'a sorti de mon identité, de ma religion, de mon histoire et même de mon expérience en fait. Je veux pas devenir ce qui a été un agent oppressant dans mon histoire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu à chaque fois reconnecter avec la religion, avec mes valeurs et avec surtout mon intime conviction et mon intime conviction qui est justement alimentée par la religion. Et que j'ai pris mes décisions en paix et qui étaient les meilleures à prendre parce que finalement, il y a eu beaucoup mieux pour moi qui s'est présenté.
D'accord. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est tes expériences dans le pénal.
Oui.
Tu as beaucoup travaillé dans le pénal.
Oui.
Tu me disais au téléphone, donc des dossiers de violences sexuelles
Oui.
et de thématiques similaires. Comment était ton expérience dans ce domaine en particulier? Si on met de côté les problèmes avec tes collègues
Interne. Ouais.
internes.
Et ça, justement, c'est une expérience qui a été extraordinaire pour moi et raison pour laquelle je pense que tout est cohérent dans la vie et que toutes les épreuves doivent être vécues parce que ça m'a énormément appris. Moi, je suis arrivée dans un cabinet qui se spécialisait dans la défense des personnes adultes et enfants victimes de violences sexuelles et j'ai découvert finalement un monde horrible. Mais un monde qui est finalement le nôtre et qui nécessite du coup de s'y intéresser. Moi, j'ai pu constater que beaucoup de personnes qui sont agressées sont des personnes vulnérables de par leur âge, par exemple des enfants. Mais il y a aussi quelque chose qui vulnérabilise énormément dans les familles, ce sont les tabous. Ce sont les tabous en lien avec ces questions. Par exemple, moi j'ai grandi dans une famille où la question de la sexualité n'a jamais été abordée et je pense que c'est le lot de beaucoup de familles. Et malheureusement, ça vulnérabilise parce que ça n'offre pas à nos enfants des moyens de défense face au monde qui l'entoure. Et ce monde est méchant, ce monde est dangereux. Et ça, j'ai pu vraiment le constater qu'il y avait de. La pédocriminalité, ça concerne tous les milieux sociaux, toutes les ethnies, toutes les religions, et que c'est quelque chose d'affreux et qu'on n'aimerait pas le voir, mais c'est là. Et c'est important, en tout cas, comment dire, d'exploiter des ressources qui nous permettent de protéger nos enfants. Ça, c'est quelque chose que je pourrais t'envoyer par la suite. Par exemple, il y a des petits manuels qui sont des petites histoires adaptées pour les enfants et qui leur permettent de reconnaître des risques, des situations à risque. Quand un adulte va leur parler de certains sujets, va leur demander d'avoir des secrets, Et en fait, petit à petit, bien sûr, c'est adapté hein, pour des enfants de tout âge, enfin, il y a différents niveaux. Ça leur permet finalement d'avoir des instruments de défense. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui malheureusement manque encore dans beaucoup de familles. Et peut-être que des fois, les tabous religieux aussi font que dans les familles, on ne souhaite pas aborder ces questions, alors que c'est important de le faire pour le bien de nos communautés aussi.
Je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes de culture musulmane. C'est un sujet
Et
assez tabou.
je comprends pour les parents que ce soit difficile. Moi-même qui n'ai pas encore d'enfant, je vois comme c'est difficile d'être confronté à ces questions-là. Donc en plus, quand on a des enfants, on ne veut absolument pas imaginer le pire. Mais pour prévenir le pire, il faut justement protéger nos enfants. Et il y a des moyens. Voilà.
Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement, juste prendre quelques minutes, parler des différences d'exercice dans la profession entre la Suisse et la France, notamment pour les musulmans, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, il me semble que tu me disais, il y a beaucoup de musulmans, de musulmanes particulièrement qui posent la question.
Oui, alors tout à fait. Donc sur la page que j'ai ouverte pour recueillir pour proposer des petites séances de mentorat, j'ai eu beaucoup de personnes françaises qui m'ont appelé pour me dire comment est-ce qu'on fait pour venir en Suisse. Et j'ai eu beaucoup de femmes musulmanes qui portent notamment le foulard. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi parce que j'ai découvert une nouvelle discrimination en venant en France qui visait les femmes portant le foulard qui ne peuvent pas avoir une activité judiciaire. Elles ne peuvent pas se présenter devant un tribunal avec un foulard, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse. Donc en Suisse, tu peux porter ton foulard et être avocate. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Donc c'est différent pour le statut de magistrat. Mais en tant qu'avocate, il n'y a absolument pas de restriction au port du signe religieux. En France,
Même dans le
enfin,
pénal?
voilà. Même dans le pénal. Même
En
dans le
France, c'est surtout dans le
pénal,
pénal, il me semble.
alors en France, sauf erreur de ma part, c'est toute activité judiciaire qui empêche le port du foulard. Donc en fait, dès que tu es amené à te présenter devant des magistrats, devant
C'est
des juges ou
ça.
un tribunal, tu n'as pas le droit de porter un foulard. Et c'est absolument, à mon avis, hypocrite, on doit par contre porter la robe d'avocate. Cette robe d'avocate qui est d'origine ecclésiastique. À l'époque, cette robe, elle comportait 33 boutons, donc d'origine christique. Aujourd'hui, je crois que c'est à 10 boutons. Mais dans ce sens, c'est vraiment un héritage chrétien. Donc, c'est un héritage religieux. La profession d'avocat aussi qui est organisée en ordre. Enfin, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui fait le lien entre la profession d'avocat et ses origines ecclésiastiques. Et aujourd'hui, on interdit aux femmes musulmanes de porter le foulard au motif que la robe d'avocat ne se porte sans autre signe distinctif. En fait, c'est cette notion d'uniforme. La robe d'avocat, c'est l'uniforme pour les avocats. Et tous les avocats doivent être égaux et ne doivent pas avoir de signe distinctif entre eux. Mais pardon, mais moi, j'ai bien vu des avocats en France, à Paris. On se balade au palais et puis il y en a qui ont des montres Rolex ou enfin, littéralement des chaussures Louboutin. Et grand bien leur face. J'ai aucun jugement social là-dessus. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça crée quand même aussi une différence sociale pour le coup entre des avocats qui n'ont pas les moyens de se payer ces artifices et d'autres. Mais on leur dit pas attendez, avant de plaider, vous enlevez votre Rolex parce qu'il y a une égalité et que la robe, c'est l'uniforme. Donc finalement, c'est une islamophobie qui ne dit pas son nom. C'est mon analyse et puis je l'assume. Mais ça m'a assez déçue. J'ai également été confrontée à une profession qui manque énormément de moyens en France, une justice qui n'a pas les moyens de se rendre. Et ça, c'est extrêmement pénible et lourd pour un avocat ou une avocate que de finalement exercer son métier dans un système qui dysfonctionne, alors qu'en Suisse, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et la profession peut se vivre de manière moins asphyxiante qu'en France. Donc ça, c'est aussi mon constat.
Ah, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à rajouter.
Je pense que après, on est quand même finalement issu d'une minorité, que ce soit en Suisse ou en France, ce
Ouais.
qui fait qu'on va toujours être entouré également de personnes qui comprennent pas forcément nos vécus, qui comprennent pas forcément notre religion, qui ne comprennent pas forcément nos identités. Et ça peut également créer un sentiment de solitude. Donc, c'est quand même une profession qui est traditionnellement conservatrice. On parle de droit, on parle de droite aussi. Et moi, j'assume totalement le fait de dire que je suis de gauche. Et je suis aussi sur ce plan-là, je me sens aussi minoritaire parmi mes confrères et consoeurs. Donc c'est une profession qui peut être difficilement praticable, que ce soit en Suisse comme en France. C'est une profession où on peut se sentir seul, mais il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. C'est une profession aussi qui, pour moi en tout cas, se conjugue bien avec la foi musulmane, tout simplement parce qu'il y a des beaux principes, il y a des principes d'humanisme. Donc voilà, moi j'ai aussi eu une personnalité qui m'a beaucoup marquée dans ma formation personnelle, c'est l'émir Abdelkader. Et moi, l'humanisme, je l'ai appris avec l'émir Abdelkader, parce que quand on parle de ce principe de la profession d'avocat, on va te dire oui, humanisme avec tes clients, mais aussi avec ta partie adverse. Et le traitement de l'émir avec les prisonniers français, par exemple, ça, c'était un traitement humaniste. Et ce traitement-là, il lui a été dicté par sa foi. Et je trouve ça dommage un petit peu qu'on n'ait pas forcément des possibilités aussi d'expliquer que on prend nos décisions, voilà, quand on fait des bonnes œuvres, quand on fait du soutien à des étudiants, par exemple, ou quand on fait preuve d'humanisme, c'est dicté par une foi, c'est dicté par moi, en tout cas, par mon apprentissage et ma compréhension de la religion musulmane. Et c'est peut-être quelque chose qu'on nous a moins appris à mettre en avant, parce qu'on est dans un contexte d'islamophobie, on est dans un contexte de méfiance envers les musulmans, et on a le sentiment qu'il faut qu'on se cache et qu'on ne dise pas forcément le fond de nos âmes, alors que moi, c'est finalement l'islam, enfin, tout ce que j'essaye de faire de bien dans cette vie, c'est l'islam qui me le dicte. Et ça, c'est dommage de peut-être moins le mettre en avant, et que ça permettrait peut-être aussi aux personnes qui nous font du mal d'arrêter et de comprendre qu'on est investi de belles choses et de belles missions.
J'ai lu ta description sur LinkedIn. Bon, c'est en anglais, hein, donc
C'est le côté canadien, ça.
je traduis en lisant. Tu dis, je crois que connecter les personnes, les gens, et faire du khair, donc faire du bien, est une des meilleures choses qu'une personne peut faire dans la vie. Et ensuite, tu continues en disant que tu es disponible pour mentorer les personnes, tu donnes tout ton temps gratuitement pour aider les personnes. Ça vient d'où ça? Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu parles de khair? C'est devenu quelque chose de central pour toi?
Ça l'a toujours été, mais c'est devenu quelque chose que j'assume de présenter comme tel. C'est-à-dire que, ben voilà, comme on a pu en discuter, moi j'ai aussi eu un parcours professionnel qui est très riche. Donc j'ai aussi été propulsée très jeune, hein, à des positions pour lesquelles finalement j'avais pas forcément les codes et je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. Donc c'était des bienfaits, mais c'était aussi accompagné de beaucoup d'épreuves. Et alhamdoulilah, ça s'est finalement bien passé. Mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main. Et c'est une manière finalement de rendre hommage aussi à ces cercles-là vertueux, de dire que dans la vie, on fait du bien, on nous fait du bien. Et c'est comme ça également qu'on crée une solidarité. Et ça, c'est hyper important pour moi, de dire que pour moi, ce sentiment de solidarité et de sororité, il me vient aussi de mon héritage musulman. J'ai des souvenirs très précis de moments de ma vie où j'ai compris en fait quelle était la différence entre nos sociétés européennes et quelle était la différence avec des sociétés musulmanes dans des aspects très précis. Par exemple, je vais être en Algérie avec mon frère, on est enfant et on cherche la boulangerie. On s'est perdu, on n'a pas trouvé où aller acheter du pain. Et on croise quelqu'un avec une baguette de pain et on va lui demander où se trouve la boulangerie. Et il va nous dire, elle est au coin de la rue, mais elle vient de fermer. Et puis nous, on est tout déçus parce qu'on sait qu'on va se faire gronder puisqu'on ne ramène pas le pain. Et puis finalement, la personne prend sa baguette, la coupe en deux et nous donne la moitié de son morceau de pain. Ça, c'est peut-être une image qui va paraître très futile, peut-être, pour certaines personnes. Moi, ça m'a marqué et ça m'a édifié. C'est cette idée de, ben voilà, quand on n'a pas grand-chose et quand on est une société fondée sur des valeurs, notamment de partage, d'entraide et de bienveillance, c'est comme ça que ça se passe. T'as pas de pain, je te donne la moitié du mien, je vais manger un petit peu moins ce soir, mais toi, au moins, tu mangeras aussi. Et c'est quelque chose, du coup, que j'ai voulu continuer à, et que j'ai voulu importer aussi dans mon contexte suisse, parce que, ou canadien, parce que ça, c'est, comme je t'ai dit, mes trois nationalités, j'ai pris le meilleur des, j'essaie de prendre le meilleur des trois. Et pour moi, le meilleur de ma nationalité algérienne, c'est l'islam, clairement. Et c'est ce sentiment de cette nécessité de faire le bien autour de soi et de créer aussi un réseau, si je peux parler dans un langage un peu plus, comment dire, LinkedIn, on va dire. C'est créer aussi un réseau d'entraide parce que finalement, les gens qui me sollicitent, bon, j'ai de tout, hein. J'ai vraiment des personnes qui sont musulmanes ou pas musulmanes et c'est vraiment fait pour tout le monde. Mais j'ai énormément de personnes qui avaient pas grand monde à qui parler et qui finalement sont venues me voir et qui me disent, écoute, voilà, bonjour, merci beaucoup de prendre du temps et j'aimerais avoir de l'aide et j'aimerais pouvoir aider ces personnes qui se sentent isolées, leur tendre une main. Et si en plus de ça, dans un contexte aussi hostile envers les musulmans, je peux dire que cette main tendue, elle m'est dictée par ma foi, ben je le ferai. Parce que je pense que là, il y a vraiment un enjeu de narration. Et quand on voit ce que font les médias ou autres de notre religion, je pense que là, ça devient très dangereux et important de visibiliser du coup ce type d'action également.
Tu as cité plutôt donc Emir Abdelkader, Jacques Vergès. Qui a eu le plus d'impact sur toi? Est-ce que c'est une de ces deux personnes, quelqu'un d'autre?
Ma maman qui a eu le plus d'impact. Bien évidemment. Non, c'est. Il y a eu des récits qui étaient édifiants dans ma vie. Mais moi, je vois la position de la maman dans la vie comme étant sans aucune autre mesure, parce qu'elle a apporté tout. Elle m'a tout apporté. Elle m'a appris l'apprentissage, l'éducation, la religion, l'éthique, l'éthique du travail. Elle m'a aussi transmis ses souffrances. Elle m'a aussi transmis ses espoirs. D'ailleurs, c'est littéralement mon prénom. Je m'appelle Amel, qui veut dire espoir en arabe. Donc, il y a ce côté, je suis très sensible à ces questions de transmission. Et surtout pour nous qui sommes issus de l'immigration postcoloniale, on porte en nous beaucoup. Et je trouve que c'est important du coup de rendre hommage à cet héritage sans s'oublier aussi. Mais c'est ce que j'essaye de faire là aussi en disant que mon plus grand modèle, c'est ma maman.
Très bien, c'est très touchant. J'espère qu'elle t'écoutera peut-être.
Après, ce qui est très drôle, c'est qu'elle désapprouve tout ce que je fais.
Ah, c'est pour te protéger.
Exactement, et je le vois comme ça, et puis ça t'empêche aussi de prendre trop le boulard ou quoi, donc c'est bien aussi. Mais non, non, elle n'est pas du tout OK. Le truc que je te parlais tout à l'heure, des violences sexuelles, non, non, ça va pas du tout. C'est
Voilà,
chouma, c'est horrible.
déjà on parle du mot tabou au quotidien.
Voilà. Mais du coup, je sais ce que c'est aussi, du coup, enfin, je sais ce que c'est d'avoir baigné dans des tabous et je comprends totalement des parents qui sont protecteurs et un peu paumés, franchement. Mais c'est important de les briser pour qu'on prenne de la force aussi.
Écoute, Amel, il me reste quelques petites questions de fin pour terminer. La première, c'est est-ce que tu as des routines au quotidien ou dans la semaine qui te permettent de progresser ou de rester au top de ta forme? Voilà, ça peut être dans la religion, dans le sport, n'importe où.
Oui, mais je ne suis pas spécialement à l'aise de les partager.
Ok, c'est comme tu
Ouais.
veux, pas de
Je veux
problème.
cultiver le mystère.
Très bien.
Mais
Bon,
je passe.
si y a suffisamment de personnes qui t'envoient un email, peut-être que tu partageras.
Exactement.
N'y a pas de souci. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires, quoi que ce soit?
Alors en ce moment, je suis en train de... Ah ben il est là. J'ai un livre avec moi en ce moment qui est super intéressant. C'est de Mohamed Amer Méziane, qui est du coup philosophe et qui a écrit un livre qui s'appelle Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Et c'est très intéressant et passionnant. C'est l'œuvre d'un philosophe qui explique l'histoire de la sécularisation, la séparation de l'Église et de l'État. Et il y a vraiment un passage que j'ai adoré et qui m'a fait un petit peu penser à notre discussion un peu plus tôt, qui est le suivant. C'est en lien avec le pouvoir. Comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait du pouvoir? Est-ce qu'on cherche le pouvoir pour le pouvoir ou est-ce qu'on cherche le pouvoir parce qu'on pense qu'on a des valeurs qui méritent d'être partagées et d'en faire profiter la plus grande, le plus grand nombre? Et ça, je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une citation dans ce livre qui dit, qui parle du prophète Sidney Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle en ces termes, par l'action des rouages de la machine anticléricale européenne, Mahomet, entre guillemets, est en effet passé du statut de faux prophète à celui de grand homme. S'il débite un ramas de fables qu'il dit avoir reçu du ciel, il gagne des batailles, écrit du prophète Condorcet, l'un des pères fondateurs de la laïcité française. En fait, c'est voir comment les théoriciens de la laïcité française ont perçu le prophète. Ils l'ont vu, en fait, comme une personne qui utilisait la religion pour asseoir son pouvoir. Et ils ont voulu l'imiter. C'est ce que Napoléon a fait dans son expédition en Égypte, où il s'est présenté comme étant musulman. Hein. Donc ça, c'est aussi décrit dans ce livre. C'est passionnant. Moi, c'était une histoire que je connaissais très mal. Et pourquoi est-ce qu'il s'est présenté comme étant musulman pour à des tact c'est une tactique en fait, c'est une stratégie de manipulation en disant voilà, moi j'ai ces valeurs-là, mais ces valeurs-là, le recours au religieux, c'était en fait une imposture, c'était une imposture pour asseoir sa grandeur à l'image du prophète Sina Mohammed et qu'il en plus comment dire laisse penser de lui qu'il serait investi non pas d'une mission, mais en fait qu'il serait uniquement une sorte de tacticien, un stratège pour asseoir uniquement un pouvoir pour le pouvoir. Donc c'est aussi ça qui me fait penser à notre discussion, c'est que dans certains business, il n'y a plus de sens. Les gens veulent à tout prix garder leur position, à tout prix accumuler des richesses et à tout prix conserver leurs privilèges. Juste pour le plaisir de jouir de manière illimitée de plaisir sur cette terre et sans en avoir rien à fiche des souffrances des autres, sans en avoir rien, aucun compte à rendre, ni responsabilité vis-à-vis des personnes en dessous de soi, hiérarchiquement. Et ça, je le lis aussi de ces théoriciens de la laïcité qui finalement prêtent très peu d'intérêt au sens que peut avoir le pouvoir. Ils n'ont aucune éthique enfin, en se présentant comme des imposteurs. Et ça, je trouve que ça pervertit énormément le milieu du travail d'avoir des gens qui n'ont pas de foi en rien, en fait, si ce n'est eux-mêmes et leurs petits intérêts.
Très bien. Écoute, des empires sous la terre, je le mettrai en description, Inch'Allah.
Inch'Allah, ouais, je le conseille vraiment.
Enfin, dernière question, Amel. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre ou te poser une question, est-ce que c'est possible et comment?
Oui, bien sûr. Alors j'ai ma page Instagram que j'alimente plus trop en ce moment parce que je suis en plein déménagement et c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais disons que de manière passive, je la consulte, ce qui fait que les gens qui me contactent en privé, je leur réponds. Donc c'est Caramel Merabet. Je ne sais pas si peut-être on pourrait l'indiquer. Et
Ouais, je le mettrai.
sinon, via LinkedIn, donc avec mon nom, prénom, Amel Merabet. Et par email aussi, c'est amel@merabet.ch. Donc ça c'est tout à fait possible de me contacter. Alors je suis une personne aussi qui est pleine de bonne volonté, mais parfois un peu dépassée. Donc ça je le dis aussi de manière transparente. S'il y a des périodes où j'ai de la difficulté à répondre, je prévois du coup des rendez-vous un peu plus tard dans les semaines qui suivent, mais je réponds en tout cas à toutes les sollicitations. Et si des personnes ont besoin d'aide, ont besoin d'une écoute, et ne serait-ce aussi que d'un échange, ben je serais honorée d'être cette personne qui peut peut-être leur faciliter leur parcours professionnel. Inch'Allah.
Très bien. Amel, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. C'était hyper intéressant. On a
Merci
parlé
à
plein de
toi.
sujets et franchement, merci beaucoup. Enfin, c'est des sujets que peu osent parler parce que, évidemment, ça peut porter préjudice au travail. Mais
Ouf.
tu.
Je te tiendrai au courant. Je te tiendrai au courant. Mais écoute, au pire, ça fera un tri, hein. C'est plus possible de jouer à cache-cache. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Je te souhaite une très belle fin de Ramadan. Il
À
reste
toi aussi.
un moment où on se parle, il va rester 2 semaines environ. Au moment où je sortirai
Oui.
l'épisode, il restera quelques jours, Inch'Allah. Donc, bonne
Inch'Allah.
fin de Ramadan à tous les auditeurs et auditrices qui jeûnent toujours. Et puis, je te dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être en Suisse.
Merci beaucoup, Abdelrahman. À bientôt. Porte-toi bien.
Salam alaikum.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Comme ça.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.